un endroit important dans le monastère. Ben pour moi, il y en a quelques-uns, là. Mais seulement le réfectoire est un endroit important. Pourquoi? C'est parce que nous nous rencontrons comme famille religieuse, là, comme communauté au réfectoire. Alors maintenant, nous entrons dans le réfectoire, le grand réfectoire des religieuses. Alors, à cet endroit, bien les religieuses, à chaque repas, on se réunit pour prendre notre nourriture, mais aussi échanger à travers, disons, tout notre vécu de la journée.
À chaque fois que j'entre au monastère des Augustines, la première chose que je ressens, c'est l'énergie très particulière qui s'en dégage. Dans ce balado, je vous propose de découvrir cet endroit unique grâce au témoignage des religieuses qui l'habitent encore. Je m'appelle Marie-Claude Paradis, je suis journaliste et voici
Mémoire d'Augustine.
Alors, mon nom, c'est Berthe Lemay. Je suis rentrée en religion en 1961. Mon âge était 23 ans à ce moment-là. Maintenant, je suis rendue à 82 ans. Alors, après la prière du bénédicité, nous allons nous servir et spontanément, les religieuses se mettent à la même table. Alors, ce qui favorise aussi notre conversation et puis nos échanges et puis notre vie fraternelle.
Le réfectoire qui est maintenant utilisé par les Augustines et où je me trouve avec Sœur Berthe n'est pas dans la partie publique du monastère. Il est situé dans une section plus récente de l'édifice et c'est une grande pièce entourée de fenêtres avec de nombreux tables. Il peut accueillir plusieurs groupes de personnes, mais comme le dit Sœur Berthe, habituellement, les Augustines préfèrent s'asseoir tout ensemble. Il faut dire qu'elles sont plus très nombreuses. Mais même si elles sont maintenant seulement une dizaine au monastère de l'Hôtel-Dieu de Québec, ou peut-être à cause de ça justement, la vie en communauté demeure très importante. Et c'est de cette vie de communion fraternelle dont il sera question dans cet épisode. Et ça commence par les repas.
Le moment des repas représente des échanges, des partages. L'une et l'autre a son tempérament. Il y en a qui sont plus drôles que d'autres, vont conter des histoires. Et puis, c'est vraiment un moment très privilégié.
Quand Sœur Berthe dit que certaines Augustines sont plus drôles que d'autres, c'est sûr qu'elle doit penser, entre autres, à Sœur Sylvie, qui est pleine d'anecdotes savoureuses et qui a une façon vraiment très drôle de les raconter. Sœur Sylvie, elle a 63 ans et c'est une des plus jeunes de la communauté. Et elle confirme, elle aussi, l'importance que les repas ont dans leur vie de groupe.
Bon, les repas, pour nous autres aujourd'hui, ça représente un moment de rencontre, un moment de détente. Un moment où on peut se parler tout ensemble. Quand on a peut-être quelque chose à décider, ben on en parle au repas. C'est un moment aussi pour des fêtes, parce qu'on essaye de fêter le plus possible. Le dimanche, ça, c'est toujours un repas spécial. Le dimanche, ça, c'est consacré, c'est un repas spécial. Puis quand c'est la fête d'une sœur, quand c'est la fête, une fête spéciale comme Noël, jour de l'an, Pâques, ça, c'est toujours un repas spécial. Puis on a du vin. Puis là, dans ce temps-là, les sœurs parlent plus un peu. Alors, c'est agréable.
En tout cas, moi, j'aimerais vraiment ça prendre un repas avec Sœur Sylvie lorsque c'est jour de fête. De nos jours, les repas sont donc des moments d'échange importants. Mais c'est plutôt récent, puisque pendant longtemps, c'est en silence que les Augustines mangeaient. Sœur Berthe, elle a connu cette période-là.
Quand je suis rentrée, c'est après quelques années, là, que les repas, on a pu parler. Mais dans les années 60, là, le repas est en silence. Mais ce qui nous aidait, après le repas, on se rencontrait communautairement. Alors là, nécessairement, les échanges se faisaient, oui, le partage et tout ça.
Donc, en ce moment, on est dans le réfectoire historique, qui était la salle de repas pour les Augustines à une certaine époque. Et on a recréé l'espace avec les tables de réfectoire d'origine, donc des tables qui datent du 18e siècle.
Vous vous souvenez peut-être d'Ariane Blanchet-Robitaille, la conservatrice du musée du monastère. Dans le premier épisode, j'avais visité la réserve du musée avec elle. On va d'ailleurs y retourner tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est dans la partie muséale du monastère qu'on se trouve.
Bien, en fait, la pièce, elle est faite en long. Les tables étaient disposées le long des murs, puis au centre, il y avait un grand passage pour laisser le chariot avec les plats passer. Il y avait environ une centaine de religieuses qui pouvaient s'attabler en même temps. Puis, à une extrémité de la salle, il y avait toujours la table de la supérieure qui était perpendiculaire aux autres tables, et ce qui permettait en fait à la supérieure et ses assistantes d'avoir un œil sur toutes les religieuses qui étaient en train de manger, puis de veiller au bon ordre pendant les repas. Pour les Augustines, le moment du repas, c'était un moment qui leur permettait de nourrir l'âme, de nourrir l'esprit autant que le corps.
Oui, parce que bon, les Augustines étaient en silence pendant le repas, c'est vrai, mais c'était pas un silence complet. C'est pour ça que dans le réfectoire, on trouve aussi une chaire de lecture.
Parce que il y a toujours une lecture là, qui se faisait souvent en vieux français. Donc, notamment, il y avait un livre qu'on appelle La vie des saints, et on attribuait souvent la lecture de cet ouvrage-là à des jeunes religieuses. Puis c'était un moment assez stressant pour les jeunes religieuses parce que c'était en vieux français, donc elles avaient toujours peur de trébucher sur certains mots, ce qui pouvait faire rire les autres religieuses qui étaient beaucoup plus accoutumées à la lecture du vieux français. Lorsqu'elles sont arrivées en 1639, on sait que les sœurs, les Augustines sont arrivées avec un coffre de fondation à trois clés. Donc, c'est un objet qui est quand même assez fort dans les collections. Et chacune des fondatrices avait sa clé pour ouvrir le coffre, ce qui symbolisait en fait l'importance de la communauté. Donc, l'importance que les trois sœurs soient là en même temps. La vie en communauté, c'est vraiment la base, en fait, de ce que les Augustines véhiculent comme congrégation, comme groupe religieux. C'est aussi issu, en fait, de toute la règle de Saint-Augustin.
Saint-Augustin, c'est un grand philosophe et un théologien chrétien romain, et on dit qu'il est un des quatre pères de l'Église occidentale. Il a vécu de l'an 354 à l'an 430 en Algérie. Bon, on s'entend que c'est pas comme ça que ça s'appelait à l'époque, puisque ça faisait partie de l'Empire romain, mais c'est pour se situer. Et quand Ariane parle de la règle de Saint-Augustin, elle fait référence à plusieurs écrits, dont une lettre authentique d'Augustin lui-même, qui était destinée à organiser la vie religieuse d'un groupe d'hommes pieux qui lui en avait fait la demande. Par la suite, la règle a été adoptée par d'autres communautés. Les Augustines ne vivent pas en ermite, seules à quelque part. Elles choisissent la vie en groupe et c'est vraiment un aspect important de ce qui les caractérise comme ordre religieux. C'est la trame de fond de leur vie. Alors, il y a plusieurs textes qui encadrent cette vie de communion fraternelle, comme elles disent. Ce sont les Constitutions, le livre de vie des Augustines en quelque sorte, leur point de repère. Les Constitutions définissent les priorités de leur vie religieuse, leurs objectifs, les moyens pour les atteindre. Elles précisent l'organisation générale de la vie quotidienne, l'horaire des prières, par exemple. Et ces constitutions sont inspirées notamment de cette règle de Saint-Augustin. Sœur Lise Tanguay, que je vous ai présentée au premier épisode, est la supérieure générale de la Fédération des Augustines de la Miséricorde de Jésus. Ça, c'est le rassemblement de tous les monastères d'Augustine du Québec. Elle parle des trois volets de leur vie par ordre d'importance.
Bien, en fait, la vie de communion fraternelle, pour nous, dans nos constitutions, elle est première. C'est la vie de communion fraternelle, la vie de prière et la vie apostolique. Okay? Alors, c'est trois éléments de notre charisme. Et notre appartenance à la communauté est très, très forte. Puis, on avait un lieu de travail qui était toujours annexé à la communauté, au monastère. Hein?
Bon, là, si vous êtes comme moi, vous vous demandez peut-être ce qu'apostolat et charisme veulent dire dans ce contexte. Le charisme, dans le cas d'une communauté religieuse, on pourrait dire que c'est une façon particulière d'être et de vivre selon sa foi. Ça inclut une spiritualité, une mission et un projet de vie communautaire. Quant à l'apostolat, ben, je vais laisser Sœur Lise l'expliquer.
C'est la vie, le travail. Comme nous, on était infirmières, la plupart. D'autres travaillaient à l'intérieur du monastère. C'est ça, l'apostolat, c'est le travail que l'on accomplit. Ça vient de apôtre, apostolique, apostolat.
Si on revient à la vie de communion fraternelle, il faut se rappeler que jusqu'au Concile Vatican II, dans les années 1960, les Augustines étaient cloîtrées. Elles quittaient le monastère pour travailler à l'hôpital et c'est tout. Alors la communauté devenait vraiment la seule et unique famille et les religieuses devenaient comme... ben comme des sœurs. Sœur Berthe a connu la fin de cette époque-là.
Quand je suis rentrée en 61, c'était encore le cloître. Quand j'ai quitté ma famille, c'était définitivement pour la vie. Et puis, c'est en 67 qu'on a eu la permission d'aller dans notre famille. Avant, c'était encore très cloîtré. On n'avait pas le droit d'aller dans la rue, sur la rue des remparts. On restait là, vraiment dans notre jardin, dans le jardin, dans la maison, et on ne sortait pas. Sauf, évidemment, que les personnes qui allaient à l'extérieur étudier, là, il y avait des exceptions, mais dans la maison, c'était ça.
Ça fait trop lourd. Quatre. Les horaires des bains, c'est-tu dans la A10?
Au niveau de la vie en communauté, mais c'est sûr que ça demande une certaine organisation, surtout lorsque les religieuses étaient très, très nombreuses, donc au-delà d'une centaine dans un même bâtiment. Mais ça fait une très grande famille, donc ce qui nécessite une certaine structure. Donc, on a des objets qui permettent de structurer ça, notamment des petits tableaux de bois qui étaient utilisés pour les horaires des bains.
Sur là-bas, hein? Oui, sur là-bas. Petit égard. Donc ça, c'est un tableau d'horaire des bains qui est fait maison, donc probablement par une Augustine. On voit que c'est identifié les bains le vendredi, le samedi, le dimanche avant-midi et le dimanche après-midi. Donc il y avait seulement 3 jours où les religieuses pouvaient prendre leur bain. Et donc lorsque la religieuse voulait réserver une plage horaire, elle avait simplement à glisser la petite réglette de gauche à droite.
En fait, la vie en communauté, c'est aussi les activités qui étaient permises par la communauté. Donc, les temps de la journée étaient régis selon un horaire qui était bien fixe. On a des objets qui sont liés au contrôle du temps, donc des montres, des sabliers, des cloches qui symbolisent en fait les différents moments de la journée.
Donc, un peu partout dans le monastère, on retrouve des cloches accrochées au plafond. C'est majoritairement des cloches des observances qui permettent de rythmer la vie des Augustines. Chaque moment de la journée, en fait, était rythmé avec un son de cloche différent, que ce soit pour le lever le matin, que pour aller au réfectoire, pour aller au chœur, donc pour les différents offices. Donc, il y avait une sœur qui était responsable de sonner la cloche et avec différentes tonalités. « Donc ici, on a une urne de vote qui date du 19e siècle, qui permet en fait de nous renseigner sur le processus électoral chez les Augustines, ce qui est quand même un fait super intéressant parce que les Augustines, lorsqu'elles sont arrivées ici en 1639, elles importent des manières de faire. Et l'urne de vote, en fait, permet aux religieuses de se prononcer sur des décisions importantes, notamment l'élection de la supérieure, puis les autres officières dans la communauté. Donc, toutes les religieuses qui vont avoir un poste administratif, mettons, au conseil. Donc, c'est un bel exemple, en fait, de processus électoral avant même que le processus électoral existe ici à proprement parler dans la société. Donc, on voit qu'il y avait une belle démocratie, en fait, et une belle vie communautaire chez les Augustines. Tout était fait là, pour le bien de la communauté.
Tout était fait pour le bien de la communauté. Ça, c'est quelque chose de vraiment important à retenir. Ça revient souvent et de différentes façons lorsqu'on discute avec les Augustines. Les postes administratifs, si on veut, vont être attribués par la communauté, et les personnes qui vont les occuper vont consulter cette communauté régulièrement. La démocratie demeure bien présente dans la vie des Augustines. Par exemple, en 1957, on a regroupé les monastères au Québec pour former la Fédération des Augustines. L'objectif, c'était de favoriser la communion d'esprit, l'union fraternelle et l'entraide. Et à la tête de la Fédération, il y a un conseil général et une supérieure, Sœur Lise, qui sont élus par les délégués de tous les monastères.
Alors, c'est très démocratique et puis c'est très fraternel surtout. Maintenant que les sœurs sont très âgées, qu'elles ne peuvent plus sortir, bien, c'est par Zoom qu'on les rejoint et qu'on peut avoir des conférences puis les rencontrer. Bien, ça fait partie du respect des personnes, la démocratie, hein, et puis... l'exercice, justement, pour les élections, ça se fait en toute confidentialité. Il n'y a pas de campagne électorale avant, rien. On demande aux sœurs de prier, on fait une neuvaine à l'Esprit-Saint et elles votent chacune très confidentiellement, puis elles font le choix que l'Esprit leur inspire, là, à partir de ce qu'elles voient, de ce qu'elles entendent aussi, puis de leurs réflexions. Tu sais, le fait de vivre ensemble, la vie de communion fraternelle, c'est tout un soutien, ça, hein? C'est tout un... ça nous aide beaucoup à vivre toutes sortes de choses, à se supporter, parce que c'est pas toujours facile, mais il y a quelque chose qui nous unit au-delà de ça et qui fait notre cohésion. Et ça, c'est très important. Très important.
La vie communautaire, c'est que t'es pas seul. T'es avec tes sœurs. Tu as de la peine, tu peux parler à une ou à deux. Tu as de la joie, tu as du monde avec toi. Tu vas prier à chapelle, t'es pas tout seul. Tu vas prier à l'oratoire, t'es pas tout seul. Tu vas manger, t'es pas tout seul. Tu sais, moi, j'aime ça. C'est pour ça que je dis que je suis faite pour la vie communautaire, tu sais, d'être ensemble.
Bon, là, c'est bien beau, là, tout ça, la vie de communion fraternelle, mais tous ceux qui ont déjà vécu avec quelqu'un, que ce soit la vie de couple, la colocation, la vie de famille, savent que c'est pas toujours facile de partager son quotidien avec des gens qu'on a choisis, qu'on aime, avec qui on a des liens de sang. Alors, avec des personnes qu'on n'a pas choisies, il doit sûrement y avoir des défis, même quand on est une religieuse, non?
Non, c'est vrai qu'on ne s'est pas choisi, mais le Seigneur nous a choisis pour qu'on soit ensemble. C'est sûr que c'est pas toujours facile, là. Les caractères sont différents, on a été élevés différemment, on pense différemment, mais on se dit que c'est le Seigneur qui nous a choisis pour être ici. Alors ça, là, c'est un ancre pour nous autres. Des fois, c'est pas facile. Des fois, tu te dis, ah, oh, ben là, je suis tannée, là. Mais, tu sais, tu te dis, ben Seigneur, pardonne-moi, Elle a sa façon de faire. Moi, j'ai ma façon de faire. Alors, il faut qu'on s'arrange pour être capable de fonctionner comme ça. Puis, ça marche. Ça marche. Mais ça arrive que ça nous tombe sur les nerfs. Ça arrive. On est humaine.
Bon, je suis peut-être un peu bizarre, mais on dirait que ça m'a fait du bien d'entendre Sœur Sylvie dire ça. C'est comme un droit à l'imperfection, si on veut. En préparant ce balado, j'ai eu l'occasion de m'entretenir en tête-à-tête avec plusieurs religieuses, mais aussi de les rencontrer ensemble. Les entendre parler de leurs difficultés, mais aussi de leur façon de les surmonter, constater leur complicité, j'ai trouvé ça vraiment inspirant.
Mais c'est pas une vie sans difficulté non plus, là.
Ben non.
Pas croire qu'on est toutes des femmes parfaites, là, puis qu'on s'assassine pas de temps en temps. Non, non. C'est la réalité, c'est ça. Sauf que on est toujours appelé à se dépasser. Tu sais, si à un moment donné, j'étais un petit peu brusque avec une compagne, bien, après ça, tu sais, j'étais capable de dire, ben, quoi, excuse-moi, là, j'étais fatiguée, ou bien, je suis pas correcte, là, tu sais. Faut le faire, ça, pour avoir une vie communautaire, comme dans les familles, hein, dans les couples, là, c'est ça aussi, là. Quand on rentre en communauté, on laisse pas notre personnalité à part, puis notre caractère. Mais on essaie de le bonifier, de le sanctifier. Au fil des ans.
C'est un travail de tous les jours.
Un travail de tous les jours, de toute la vie, mais plus
on vieillit. On déchire les coins. on arrondit les coins.
Mais comme Sylvie disait, en fait, on ne se choisit pas.
Non.
Hein? On se retrouve ensemble. Puis dans la vie de tous les jours, j'aurais peut-être pas choisi une telle, tu sais, comme amie ou... Mais là, on se retrouve ensemble, puis on dit, il y a quelque chose à l'origine qui nous rassemble. Ouais. Puis c'est ça qui fait notre force, au fond. Mmh. Ouais. Ouais.
Trouver de la force dans ce qui nous unit, comme dit Sœur Carmel. C'est quelque chose de beau à méditer, je trouve, et qu'on peut tous appliquer dans nos vies personnelles. Et même lorsqu'on se retrouve avec des personnes avec qui on a, disons, moins d'affinités, Sœur Berthe dit qu'il y a toujours quelque chose à faire.
Alors, chacune arrive avec ce qu'elle est. C'est des personnes aussi qu'il faut apprendre à connaître. Même quand je travaillais à l'hôpital, le groupe d'infirmières, il y avait des personnes à qui c'était plus facile de communiquer, de travailler. Mais c'est comme ça aussi en communauté. Hein, en communauté, il y a des personnes qui c'est plus facile de travailler avec elles. Mais par contre, je pense que ça nous apprend à s'ouvrir aux autres aussi, puis à essayer de les connaître dans leurs possibilités, leurs capacités, leurs talents. Puis moi, ce qui m'aide beaucoup, ça a été cette dimension-là. Disons, c'était peut-être pas facile, mais je vais la connaître. Puis je vais essayer de découvrir son potentiel positif là, et de cheminer avec elle dans ce secteur-là.
Si la vie en communauté vaut la peine qu'on fasse tous ces efforts, si elle est si importante, c'est aussi parce que la solidarité et le soutien qu'on peut trouver dans un groupe y est extrêmement précieux, surtout pour des femmes qui se sont données comme mission de prendre soin des autres.
On est toujours ensemble, on mange ensemble, on partage les récréations ensemble. On arrivait de l'hôpital, là, aux tables, ça, tout en respectant le secret professionnel, mais on était capable de parler un peu de notre journée, ce qu'on avait vécu de beau, de difficile, puis tout ça. On défoulait au fur et à mesure. On partageait, puis après ça, on était ensemble, on avait la récréation, puis ça nous changeait les idées. Comme une infirmière disait, elle travaillait à l'urgence, moi, j'arrive chez nous le soir, là. Elle dit, c'est les devoirs, c'est le souper, c'est le mari. Elle dit, j'ai pas le temps de parler de ce que j'ai vécu à l'urgence durant la journée. Puis elle dit, j'en ai vécu des choses très dures. Fait qu'elle dit, je recommence, là, je mets ça dans un coffret, là, puis hop, je m'occupe de la famille. Le lendemain matin, je retourne travailler à l'urgence, je recommence encore. J'accumule. Parce qu'ici, on avait fait un cercle de paroles à un moment donné. On avait réuni des infirmières des différents âges, là. Et puis l'infirmière avait dit, c'est ça qu'elle avait dit. Elle dit, moi, j'en reviens pas, comment ça peut nous faire du bien? Bien, nous autres, ça nous faisait du bien aussi, le fait d'être ensemble et d'être capable de partager. Le soutien.
C'est comme spontané quand quelqu'un revenait du département ou même jouait avec Sœur Sarah là, quand elle revient. Tu sais. Puis, quelle journée que tu as passée? Ouais. Est-ce que ça a bien été? Est-ce que... Alors, tout en respectant, comme Sœur Lise dit, tout en respectant en fait la confidentialité.
Ça représente aussi une force pour remplir notre mission. C'est précieux parce qu'on est ensemble et puis qu'on s'aide mutuellement. On peut s'encourager mutuellement quand c'est difficile.
Les Augustines sont des soignantes, mais ce sont aussi des femmes qui ont choisi une vie consacrée à la prière. Et ce que j'ai compris, c'est que pour ça aussi, le support du groupe est important.
Alors, quand je parlais tantôt du communautaire, ben, on a besoin des autres. On a vraiment besoin des autres. Quand tu recherches quelque chose d'intérieur, tu as besoin d'autres personnes avec toi. Parce que des fois, c'est très, très difficile. Tu sais, c'est très difficile de trouver, de chercher toute seule. Alors, tu as besoin d'autres personnes à côté de toi. Tu as besoin d'exemples. Tu as besoin de voir d'autres qui font des choses.
La vie communautaire, c'est un moyen qu'on se donne pour être capable de s'épauler dans la vie, pour être capable de parler, oui, de notre vécu, au niveau de notre travail, mais aussi être capable de se soutenir spirituellement, de partager la parole de Dieu ensemble, d'avoir des échanges qui ne sont pas juste au niveau de ce qui peut être véhiculé au niveau des nouvelles, mais quelque chose qui va nous permettre de nous ressourcer ensemble. C'est vraiment plus que vivre ensemble, avoir des chambres, avoir des lieux. C'est un moyen qui nous est donné pour nous ressourcer, pour nous soutenir, pour nous stimuler, grandir ensemble, apprendre à s'accueillir, pour être capable aussi de le vivre avec d'autres personnes.
S'il y a une chose que la pandémie nous a montré, c'est à quel point on a besoin des autres, de se sentir en relation. On a, comme être humain, besoin de connexions authentiques et véritables avec les gens qui nous entourent. Pas juste pour parler de la pluie et du beau temps, mais pour s'aider à grandir et à devenir de meilleures personnes. Peut-être même pour se connecter à plus grand que soi. C'est ça aussi, l'héritage des Augustines. Si l'écoute de cet épisode vous donne envie de découvrir ou de redécouvrir le monastère des Augustines, vous pouvez y planifier un séjour, participer aux activités ou en visiter le musée. Vous trouverez tous les détails sur le site monastère.ca. Le balado Mémoire d'Augustines a été conçu et réalisé par moi-même, Marie-Claude Paradis, avec la collaboration d'Andréanne Quentin et de Lisa-Marie Perrault, responsable du musée du monastère des Augustines, et avec l'aide de Pascal Séguin pour le mixage sonore. Je souhaite dire un immense merci à toutes celles qui ont généreusement offert leur témoignage. Ce projet est rendu possible grâce à l'entente de développement culturel entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec.